Salut à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'auto-édition et les indépendants. Je suis Judy, assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur le podcast Annaëlle Calmeltrin. Alors je crois que c'est dans ce sens-là qu'on le dit. Auteur de plusieurs romans historiques, dont le dernier, Malcuit Dent, est paru fin 2023. Donc toi, tu le sais, Annaëlle, je t'en avais parlé la dernière fois au téléphone. J'ai découvert ton nom quand tu as publié ton roman « Qu'est-ce que moi, à ce moment-là, je travaillais en librairie ?» Et puis, je l'ai retrouvé l'année dernière lors de ta participation au Prix des auteurs inconnus, puisque j'étais jurée à ce moment-là et que tu avais soumis ton texte. J'ai trouvé que tu étais un auteur très généreux dans ton écriture, mais aussi dans ton ouverture à parler de ton rôle d'auteur, de ton métier, à parler de sujets autour de la littérature. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir sur le podcast.
Merci.
Et je suis vraiment très contente de pouvoir parler de ton parcours. Je l'évoque brièvement ici, mais de toute façon, on va en reparler un petit peu. Tu es aussi le fils de Mireille Calmel, une autrice renommée de romans historiques. Et donc, tu vas nous dire aussi aujourd'hui ce qu'a été cette proximité avec l'écriture, ce qu'elle t'a apporté ou non. Pour faire un petit peu connaissance, est-ce que tu peux commencer par nous dire quel genre de lecteur ou d'écrivain tu étais plus jeune ? Est-ce que l'écriture est venue très tôt dans ta vie ou au contraire, est-ce que c'est arrivé un petit peu sur le tard ?
Alors, c'est plutôt arrivé très tard. Je ne me destinais pas du tout à l'écriture, vraiment, mais absolument pas. Ça ne m'intéressait absolument pas. Je m'en sentais d'abord absolument pas capable. Bon, c'est que j'avais aucune imagination. Et puis, je ne lisais pas trop quand j'étais enfant. Je l'avoue, je passais plus de temps derrière ma Nintendo que derrière un bouquin. C'est vraiment venu beaucoup plus tard. J'ai commencé à écrire donc Le Serment de Geoffrey. C'était, je crois, en 2013. Voilà, donc c'était vraiment tard. Comme lecteur, j'ai commencé la lecture après mes 15 ans à peu près. J'ai commencé par Harry Potter, qu'on m'avait offert, les 4 premiers tomes que j'ai dévorés. Et je me suis dit, ouais, en fait, la lecture, c'est pas mal. Et puis, il y avait cette petite question qui revenait sans cesse, puisque Cueilli d'Aliénor est sorti en 2021, donc le premier roman de ma mère en 2001. À l'époque, j'étais au lycée, tout le monde me demandait, alors, est-ce qu'il est bien le bouquin de ta mère, puisque tout le monde en parlait, qu'est-ce que ça raconte? Et moi, je leur disais, ben je sais pas. Et donc, pour répondre à cette question, je me suis dit, je vais peut-être le lire. Voilà. Donc, j'ai lu le bouquin de ma mère, que j'avais beaucoup aimé. C'était une expérience assez perturbante pour moi au début de lire son roman parce que j'avais l'impression de l'entendre comme quand elle me racontait les histoires quand j'étais petit. Et voilà, je suis rentré dans la lecture par l'univers voilà, fantastique avec Harry Potter. J'ai lu, bon, bien sûr, les romans de ma mère quand ils sont sortis, mais très tôt, je me suis tourné vers la fantasy avec Le Seigneur des Anneaux que j'ai lu dans la foulée, puis d'autres romans comme ça, la science-fiction. J'ai lu quasiment que de la science-fiction et de la fantasy pendant une dizaine d'années, je dirais, avant de m'ouvrir à d'autres genres littéraires et de commencer moi-même à écrire.
Et les romans historiques, est-ce que c'est quelque chose que tu lisais déjà avant ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait ou c'est...
Ça m'a intéressé parce que finalement, la frontière entre le roman historique et le roman de fantasy est parfois mince. Et donc, c'était pas compliqué pour moi de venir vers le roman historique, surtout que pas dans les romans de ma mère, puisque c'est par là que je suis entré dans le roman historique. Il y a toujours une petite touche, on va dire, de fantastique qui revient. C'est assez récurrent. Mais j'ai lu peu, en fait, de romans historiques autres que ceux de ma mère avant longtemps. Du coup, j'aimais tout ce qui était chevalerie, tout cet univers-là m'a toujours plu.
Ben, on va commencer par parler du coup de ton tout premier roman. Donc toi, t'as un parcours un petit peu atypique. Tu baignes dans la littérature, du coup, en tout cas dans un milieu qui s'intéresse à la littérature depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter du coup à quel moment et pourquoi est-ce que t'as démarré l'écriture de ton premier roman qui s'appelait à ce moment-là Le Fils de Roland et qui deviendra plus tard, si je me trompe pas, Le Serment de Geoffrey.
Alors en fait, c'est vraiment venu par surprise pour moi parce que je pensais pas du tout, voilà, comme je disais tout à l'heure, que je pensais pas du tout être capable de faire ça, d'aligner plus de quelques mots. J'ai jamais été très forte quand il s'agissait de rédiger une histoire. Je devrais dire plutôt. Et donc, j'ai eu en fait envie d'en découvrir davantage sur le personnage de Geoffrey Rudel, qui était un personnage qui m'a accompagné presque toute ma vie. Moi, j'ai grandi à Blaye. Geoffrey Rudel a été prince de Blaye au XIIe siècle. Et voilà, je remontais la rue Geoffrey Rudel pour aller au lycée le matin. J'allais au lycée Geoffrey Rudel. Ma mère a écrit son premier roman, L'île d'Aliénor, où l'un des personnages principaux est justement Geoffrey Rudel. C'est un nom que j'ai entendu toute ma vie. Et je me suis dit, elle m'a raconté un personnage formidable et moi, j'ai envie d'en savoir plus, notamment sur l'avant, sur l'avant, la période qu'elle raconte. Comment il est devenu ce troubadour merveilleux, dont il nous reste encore quelques textes aujourd'hui. Et voilà, j'ai fait des petites recherches par-ci, par-là, mais bon, ce qui est rigolo avec l'histoire, c'est que quand on commence à ouvrir un tiroir, à ouvrir un livre, et puis il y a plein d'informations qui surgissent, et puis qui mènent vers d'autres informations, d'autres portes, vers d'autres livres. Et puis je me suis pris au jeu, on va dire ça, et j'ai reconstitué une histoire possible de ce qu'a pu être, je veux dire, la jeunesse de Geoffrey Rudel. Voilà son parcours, lui, de jeune garçon jusqu'à son parcours de combattour. Et je me suis dit, bah, tiens, ça aurait pu être comme ça. Et puis, en même temps, j'ai cherché sur ce qui s'est passé dans le contexte du début du XIIe siècle. Et il y a plein de choses. Je me suis dit, bah, ça, c'est en plein dans ce qu'a écrit ma mère à peu près. Et ça colle bien. On pourrait écrire une nouvelle histoire qui se passerait avant son roman. Voilà, il se passe ça à la cour d'Angleterre, il se passe ça à la cour de France, en Aquitaine. Voilà, et il y a. Il y a ces troubadours qui arrivent. Je me suis dit, là, il y a une petite histoire.
Parce que c'est un personnage sur lequel on a beaucoup d'informations ou
Non, très très peu, en fait. Ouais.
Ah oui, voilà. Il a fallu imaginer, finalement, ce qu'aurait pu être sur sa vie. Donc,
Et voilà. Et puis, je me suis dit, ben tiens, j'ai un petit début d'histoire, là. Donc, avant de me lancer dans l'écriture, hein, j'ai fait tout un résumé, tout un parcours. Mais au départ, c'était juste comme ça. Je me suis jamais dit que j'allais l'écrire, en fait. C'était juste,
okay.
C'était juste pour moi, pour me dire, ben voilà, maintenant, je sais quel est ce personnage. Même si j'ai modifié un petit peu l'histoire pour la rattacher à la légende qu'avait écrit ma mère. Et puis voilà, je me suis dit, bon, ben là, voilà, j'ai toute l'histoire. C'est resté un peu en suspens jusqu'à ce qu'un bon matin, je me réveille, je me suis dit, ah, le bouquin, il commence comme ça. Et donc là, je suis parti, j'ai dit à ma femme, je dis, écoute, tu me laisses une demi-heure, là, il faut que j'écrive le début parce que je sais comment ça va commencer. Et j'ai écrit le premier chapitre du livre, qui n'est plus le premier chapitre puisque j'en ai rajouté un petit peu avant, hein, par la suite. Mais voilà, j'ai écrit, et puis c'était parti. Un peu par surprise pour moi, je ne pensais pas du tout y arriver en fait.
Ouais, mais parce que tu n'avais jamais peut-être avant écrit quoi que ce soit de très long, ou parce que peut-être tu n'avais juste même pas dans l'idée d'en faire un livre en fait. Toi, tu voulais juste te renseigner au début quoi.
Exactement, et puis ouais, je n'avais jamais écrit avant, en dehors de devoirs pour l'école, mais bon, ça c'était. Je n'y mettais pas déjà beaucoup de cœur à l'ouvrage, on va dire ça comme ça, je faisais ça vraiment en dilettante. Voilà, quand on me demande ce que j'aimais à l'école, moi, la littérature et l'histoire géo, c'était le cadet de mes soucis. J'en avais absolument rien à faire. Et donc, me retrouver auteur de romans historiques 20 ans plus tard, j'ai pris contre-pied, là.
Et puis, en plus, c'est vrai qu'on a tendance à penser que le roman historique, justement, c'est un genre qui n'est pas évident parce que ça demande quand même une grosse quantité de recherche. Alors là, tu disais, c'est une personnalité sur laquelle on a quand même peu d'infos, mais... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'as trouvé que c'était... Alors, t'as écrit d'autres romans historiques par la suite, donc je pense que tu as du recul aujourd'hui sur ce travail-là, mais c'est un genre qui est particulier quand même par rapport aux romans de fiction sur lesquels on peut quand même travailler des univers complètement... qui n'existent pas. C'est vrai que le roman historique a quand même une base de recherche assez importante.
Tout à fait. Alors, c'est vraiment quelque chose que je tiens à faire bien. Je veux raconter une histoire. Mais je ne veux pas raconter n'importe quoi, je ne veux surtout pas changer l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les recherches historiques progressent et se poursuivent de jour en jour, donc il y a peut-être des choses qui ont été dites dans le passé qui seront modifiées dans l'avenir, mais en l'état actuel des connaissances, moi ce que je reçois et ce que j'étudie, je ne veux pas le modifier, je ne veux pas changer l'histoire. Je ne suis pas là pour ça, mais je veux raconter une histoire dans l'histoire. Et donc, je fais beaucoup de recherches pour m'imprégner au maximum du contexte social, politique, comment les gens vivaient, comment les gens pensaient. Alors évidemment, c'est une supposition quand même. J'essaie de mêler les deux, parce que parler du passé, c'est aussi parler du présent. Donc, voilà, mon but, c'est vraiment de, en faisant ces recherches, être le plus précis possible dans le contexte et dans la vision que les personnages peuvent avoir du monde qui les entoure. Même si parfois c'est délicat. En plus, suivant les périodes, c'est encore plus difficile parce que plus on remonte loin, plus les informations, soit elles manquent, soit elles sont difficiles à trouver. Mais c'est pas grave, moi je trouve ça que c'est un défi en fait d'y arriver à faire un roman historique. Cette partie-là me plaît. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de travail, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour mon second roman, par exemple, j'ai passé 4 mois et demi quand même à travailler tous les jours sur le contexte, sur. Voilà.
Donc du coup, si je reviens à mon sujet qui est à la base quand même l'auto-édition, pourquoi est-ce que ce tout premier texte que tu as écrit, tu l'as d'abord auto-édité? Parce qu'on pourrait penser d'emblée qu'avec les connaissances de ta mère dans l'édition traditionnelle, tu serais allé embarquer directement dans cette voie-là. Est-ce que c'était un projet ou est-ce que l'auto-édition, ça correspond aussi à la manière dont tu as construit, je pense, ton écriture et ton processus d'écrivain finalement ?
Alors, ça s'est fait la décision s'est faite en plusieurs temps. Moi, j'ai terminé le serment de Geoffrey, donc qui s'appelait Les Fils de Roland dans la première version. J'ai terminé en 2016. À ce moment-là, je l'ai mis de côté parce que on allait avoir une petite fille avec mon épouse et que je m'étais dit, ben là, c'est bon, j'ai terminé ce roman, je sais pas quoi en faire pour l'instant, et puis bon, je veux m'occuper pleinement de ma fille à venir, de ma vie de papa, donc je mets ça de côté, et puis j'avais un travail à côté, donc c'était pas du tout un objectif de faire quelque chose avec, mais on l'avait envoyé à sa maison d'édition à elle, pour avoir un retour, ne serait-ce que de la part de professionnels de l'édition, me dire ben, qu'est-ce que ça vaut ou pas, juste voilà, un retour, un regard, ça m'intéressait. À l'époque, très franchement, la réponse a été qu'il y avait encore besoin de travail. Puis il y aurait vraiment besoin de retravailler le texte sur certaines parties, ce dont j'avais pleinement conscience, puisque voilà, je me suis dit, mais moi tout seul, je suis arrivé jusque-là, et je sais ce que c'est qu'une maison d'édition, qu'une grande maison d'édition, je sais le travail qu'ils fournissent derrière et comment ils aident les auteurs à ce que le livre soit le meilleur possible. Je savais très bien que mon livre était loin d'être parfait. Ils n'étaient pas intéressés à l'époque, eux, pour le publier. Une des raisons qu'ils m'ont avancé, c'est que ça leur dérangeait de publier deux personnes de la même famille, pour la simple raison que l'éditeur des éditions Ixo, Bernard Fixo, avait dit à ma mère, tu seras toujours une maman avant d'être un auteur, et je ne veux pas que la relation que lui avait avec elle se trouve modifiée par le fait que moi je travaille avec eux si jamais ça se passait mal. Ce que je comprends parfaitement, c'est une très bonne justification. Voilà, mais bon, j'avais moi encore du travail à faire sur ce roman. Voilà, il n'était pas encore au niveau que eux exigeaient de la part d'un auteur. Donc, j'ai mis ça de côté. J'ai entre-temps fait des petites recherches pour d'autres romans. J'ai préparé 2-3 autres histoires comme ça qui sont bien avancées. Et puis en 2020, je me suis dit, bon, ça fait 4 ans que ce roman est là dans ton ordinateur, ce serait bien d'en faire quelque chose. Et puis, les éditeurs, je n'avais pas forcément envie d'aller voir ailleurs, de questionner autre part. Donc j'ai dit, je vais le mettre sur Amazon en auto-édition, et puis on verra ce que ça donne. Je me suis dit, au moins, ça intéressera les lecteurs de ma mère qui ont adoré Aliénor. Et puis voilà, c'était tout. En fait, pour moi, l'histoire, elle s'arrêtait presque là. Voilà, je l'ai mis en ligne, j'en ai vendu quelques-uns, près de 500, je crois, en 6 mois. Et puis voilà, l'histoire, pour moi, elle était presque terminée. Voilà. J'avais envie d'écrire d'autres choses, mais juste par plaisir, quoi, pour continuer à m'amuser. Et puis, 2021, c'est arrivé que c'était les 20 ans de la sortie du Lied d'Aliénor. Les éditions Ixo ont fait un collector avec des illustrations pour le Lied d'Aliénor. Et ma mère a contacté France Loisirs pour leur demander, après le succès qu'il y avait eu sur la sortie de France Loisirs en 2001, est-ce que pour les 20 ans, vous voulez aussi rééditer le Lied d'Aliénor ? Et ils ont dit oui, 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 ça nous intéresse beaucoup. Et elle leur a dit en même temps, mon fils a écrit le préquel, est-ce que ça vous intéresse ? Ils ont dit oui, donc on leur a renvoyé le texte. Ils ont dit, nous, on le signe. Voilà, tout simplement. Moi, je me suis dit, ok, on y va. Eux, ils avaient une maison d'édition qui était affiliée au même groupe que François Dire, qui s'appelait Éditions du 123. Donc, ils m'ont signé avec les Éditions du 123. Et voilà, l'aventure est partie comme ça.
Ouais, c'était pas une volonté de ta part d'envoyer ton texte à tous les éditeurs pour entrer dans le marketing, quoi. C'était vraiment limite une question d'opportunité vis-à-vis de la sortie de l'anniversaire.
C'est vraiment ça, ouais. Une opportunité qui arrivait comme ça. Et ouais, puis bon, c'est aussi peut-être que j'étais prêt à ce moment-là et pas avant à présenter mon texte ailleurs, à en parler. Parce qu'à partir du moment où je l'avais publié une première fois, j'avais accepté déjà que le texte ne m'appartenait plus. Ok, allez, faisons sans quelque chose d'un peu plus concret.
Et tu l'avais retravaillé entre le moment où il était sur Amazon et le moment où le 123 l'a lu, ou pas du tout ?
Alors, je l'ai retravaillé, moi, entre-temps. Avant de le publier sur Amazon, je l'ai retravaillé. Hein, je l'avais repris avec ma mère qui m'avait... déjà suggéré plusieurs corrections. Elle m'avait dit, là, il y a des points là, là et là, il faut que tu revoies, il faut que tu reprennes, il faut que tu refasses. Donc elle m'a aidé au maximum. Hein. Ça a été difficile, j'avoue. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux avec ce roman encore, puisque le 123 l'a pris, mais l'a pris comme ça. Il n'y a pas eu de correction éditoriale derrière. Ils ont juste fait une correction orthotypo avec un correcteur indépendant. ça s'est très bien passé cette phase-là, mais il n'y a pas eu de suggestions de modification, de reprise du texte, etc. Quoi. C'était vraiment succinct. Donc eux l'ont pris vraiment comme ça. Donc je ne sais pas, à l'époque j'étais assez content parce que je me suis dit ben, il est potentiellement assez bien pour être publié. Mais bon, je me suis dit ben, c'est dommage parce que je n'ai rien appris de plus pour ce roman. Voilà, c'était ça un peu le côté dommage. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui je vis très bien avec le fait qu'il soit imparfait. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps là. Alors effectivement, parfois je me dis, ah là, c'est pas tout à fait ça. Mais je dois avouer que de l'avoir relu, ça m'a permis de me réconcilier avec ce texte, parce que je pense que quelque part, je le dénigrais un peu. Et là, je suis plutôt satisfait tel qu'il est, voilà. Comme il est, c'est bien.
Et alors du coup, qu'est-ce que tu retires de cette expérience finalement d'édition traditionnelle, après être passé du coup par Amazon et du coup quelque chose de beaucoup plus fait maison, un petit peu artisanal, qu'est-ce que tu retires de tout ça ?
Moi, j'ai beaucoup aimé le passage en maison d'édition au début. j'ai aimé être entouré d'une équipe professionnelle. Pour mon second roman, La Malédiction d'Irminsul, il devait sortir avec l'édition 123. J'avais tout préparé, tout le séquencier, synopsis, tout ça, ça avait été validé avec mon éditrice à l'époque. On avait vraiment tout discuté, elle m'avait aidé sur plein de points. En plus, elle connaissait la période, donc c'était très bien pour moi. Voilà, j'ai écrit le roman. Il y a eu une correction éditoriale par mon éditrice à l'époque. C'est vraiment à la toute fin qu'il y a eu le redressement judiciaire de l'entreprise et que j'ai récupéré mes droits. Mais sinon, l'objectif au départ, c'était de le sortir en maison d'édition. Et j'étais très content du travail, puisque ben, le travail éditorial m'avait beaucoup appris, encore, hein, sur les points à revoir, plein de choses très pertinentes. Voilà, c'était quelque chose d'hyper positif, parce que d'avoir un regard professionnel sur son travail et un regard différent, j'étais vraiment très demandeur, donc ça m'a vraiment beaucoup apporté. Voilà, il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé et qui s'avèrent être des choix judicieux, donc je remercie grandement cette personne de m'avoir aidé à l'époque.
La Malédiction d'Irminsul, ça paraît en 2022, je crois, en auto-édition. T'as pas du coup cherché, après avoir récupéré tes droits, à être édité ailleurs, t'avais envie de repartir sur un travail plus personnel là-dessus ?
Oui, parce qu'en fait, j'ai été un peu refroidi par la fin de l'expérience d'édition 123. Et juste avant, 6 mois avant, on avait vécu la mise à mort de Françoise Dire, mais presque, hein, puisque sur les 120 boutiques qu'il y avait, plus de 100 ont disparu. Bref, ça a été quelque chose de difficile en tant qu'auteur, un peu maison Françoise Dire, de voir venir. C'était très compliqué, moi, la maison d'édition. La fin a été compliquée. Il y a eu plein de positifs sur le plan du travail, sur le plan relationnel, sur tout ce qui est question d'obtenir sur nos droits, etc. C'est très compliqué d'avoir des informations, d'avoir des réponses. Ça m'a bien refroidi. Et puis, j'avais déjà commencé à faire des salons du livre à cette époque-là. J'ai discuté avec plein d'auteurs. Je me suis dit, mince, ça se passe comme ça aussi dans les autres maisons d'édition, parfois dans les grandes maisons d'édition. L'une des seules maisons d'édition pour qui ça se passe très bien, c'est effectivement Exodition, celle de ma mère. Et donc j'avais ce regard-là, je voyais ce que c'était qu'une maison d'édition qui faisait vraiment son travail comme il faut, et en toute sincérité avec ses auteurs. Maintenant que j'ai récupéré mes droits, ben je les gère moi-même. Voilà, je vais sortir mon livre tout seul, puisque de toute façon j'en ai vendu autant tout seul la première fois, j'ai l'édition 123 en m'en vendu en librairie. Donc c'est pour en vendre entre guillemets si peu, autant que je touche le maximum de droits d'auteur moi-même, voilà, plutôt que de le partager avec quelqu'un d'autre. C'est très simplement, mais en fait c'est que sur un petit volume, bah, autant que les droits me bénéficient à moi et pas à plein d'intermédiaires, parce que c'est le cas quand on est en édition, il y a tellement d'intermédiaires que il ne reste plus grand-chose à l'auteur.
T'étais satisfait quand même du travail qu'ils avaient fait en termes de communication et de mise en avant de ton roman, puisque là, évidemment, au niveau des ventes, c'était aussi bien que ce que tu avais fait toi tout seul de ton côté, donc tu étais quand même satisfait de cet aspect-là ? Ou tu penses que...
Pas vraiment.
Ouais.
Non, pas vraiment. Bah, y a eu de la publicité, on peut dire ça comme ça, c'est même pas de la publicité, il y a eu quelques appels à des blogueurs sur Instagram, ce qui m'a permis de rencontrer des personnes formidables du coup sur Instagram et qui me suivent encore aujourd'hui, donc ça c'est génial. En dehors de l'appel aux blogueurs sur Instagram, c'est tout ce qu'il y a eu, donc j'ai eu quelques chroniques par-ci par-là, mais ça a pas... Il y a eu d'autres, en fait la promo c'est l'auteur qui se la fait tout seul. Au quotidien, les salons du livre, c'est même pas eux qui me les ont proposés, c'est grâce à ma mère que j'y ai eu accès. Donc voilà, si en un an on me propose pas de salon du livre via mon éditeur, s'il y a pas d'autres mise en avant de mon roman que via les réseaux sociaux, en plus c'était que Instagram, c'est très compliqué, surtout que je le vois très bien pour moi, la différence entre deux publics, entre Facebook et Instagram, mais la plupart de mes lecteurs sont sur Facebook. La tranche d'âge du lectorat du roman historique, elle n'est pas dans les 15-30 ans. Hein. Voilà, j'ai plus de lecteurs d'une quarantaine, une soixantaine d'années qu'en dessous, donc c'était pas la bonne cible à mon avis, je pense.
D'accord.
J'étais pas très satisfait, ouais.
Bon, du coup, j'imagine que c'est une expérience qui t'a aussi permis d'apprendre pas mal de choses. Comment t'as vécu, du coup, le processus d'auto-édition de ton autre roman par rapport au tout premier que tu avais auto-publié? Est-ce que t'as appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses que t'as fait différemment? Peut-être en mieux?
Ouais, quand même. Je pense que j'ai fait mieux. Bon, sur les aspects plus techniques, hein, sur tout ce qui est mise en page, etc., j'ai beaucoup plus retravaillé sur processus de publication, la couverture. Alors, le problème, c'est que quand on fait tout seul, il faut essayer d'avoir des idées. J'avais aucune idée de la couverture pendant longtemps, puis c'est venu. Mais c'était difficile parce qu'on ne pense pas au départ qu'on écrit juste un roman, tous ces aspects-là. Voilà, la quatrième de couverture, le début de la promo non plus. Hein, moi, je n'étais pas content de ce qu'avait fait ma maison d'édition avant, mais je me dis, mais comment je vais faire mieux? Après, c'est vrai que moi, je vends beaucoup sur des salons du livre. Alors, je me concentre vraiment sur les salons. C'est là que je vois la clientèle, le lectorat, les lecteurs. C'est mieux d'en parler de vive voix avec les gens parce que, en plus, les lecteurs sont assez bavards, donc ils nous racontent un peu leur histoire et puis on peut raccrocher, faire des parallèles entre ce que nous racontons dans le livre et ce que vivent ou ont vécu ou leurs aspirations en tant que lecteurs. Donc, ça permet de les attraper plus facilement.
Ok. Là, du coup, il me semble que ton dernier roman est paru fin 2023. Quel rapport t'as aujourd'hui à ton activité d'écrivain? Est-ce que tu envisages d'en faire une carrière et d'en faire ton activité principale? Ou est-ce que tu as envie de garder ça comme quelque chose qui te... Enfin, comme une passion, quelque part?
Non, c'est mon activité à plein temps aujourd'hui. Depuis 2021, quand François Zir m'avait dit qu'il prenait le premier roman, je me suis dit, ok, s'ils veulent publier d'autres livres avec moi, on y va, on s'y consacre à plein temps, quoi. C'est trop difficile de faire plusieurs métiers en même temps parce que écrire demande du temps quand même. Moi, je prends beaucoup de temps pour écrire et j'ai vu sur mon premier roman, Le Serment de Geoffrey, j'ai mis quoi, 3 ans à l'écrire peut-être. Et le second roman, en 4 mois et demi, le premier jet était fait. Donc, on m'y consacre à plein temps. Et je me suis dit, c'est vachement mieux. En fait, c'est vachement plus simple parce qu'on ne perd jamais le fil. J'avais toujours avec moi l'émotion des personnages. Mon texte était toujours là. C'est plus facile pour l'écriture. C'est pas beaucoup plus facile pour la vie de tous les jours, hein, puisque de décrocher entre ce qu'on écrit et le retour à la réalité à 4h30 quand il faut aller chercher l'enfant à l'école, c'est parfois compliqué. C'était quand même beaucoup plus plaisant et beaucoup plus facile d'écrire comme ça. Et je me suis dit, moi, c'est comme ça que je veux écrire. C'est pas une fois toutes les 2 semaines pendant 2 heures juste parce que j'ai le temps à ce moment-là. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Moi, j'ai besoin de temps pour me mettre dans le roman, besoin de temps pour écrire. C'est vrai que le premier jet, je le veux quand même assez abouti. Ça reste, certes, entre guillemets, un brouillon, mais c'est un brouillon pour moi qui est déjà bien abouti. Je prends du temps pour écrire et j'ai besoin que ce temps-là soit à disposition. Donc, je me suis dit, allez, on tente le coup. On envoie valser tout le reste et on fait ce qu'on aime. Voilà.
Et l'auto-édition, pareil, est-ce que c'est un choix C'est un grand mot, mais définitif, ou est-ce que tu es ouvert du coup aux opportunités? Est-ce que tu es dans l'optique d'aller chercher un éditeur pour plus tard? Ou finalement, c'est un système qui te convient bien et tu as encore des choses à prouver et à apprendre?
Comment dire? Alors pour l'instant, c'est sûr que je reste en auto-édition. Et je pense que je resterai en auto-édition jusqu'à ce qu'une opportunité vraiment exceptionnelle se présente. Et encore avec des garanties. Je ne signerai pas un contrat d'édition juste pour le plaisir d'être édité, ou pour le prestige d'être édité, puisque malheureusement, dans notre pays, on va dire ça comme ça, il y a encore le prestige de l'édition, et qui a un poids monumental. On le voit auprès des libraires, hein, quand on arrive avec la casquette d'auteur auto-édité, on nous dit « Ah non, ça ne nous intéresse pas, vous n'êtes pas vraiment un auteur hein. ». C'est un point de vue. Voilà, mais non, je n'ai plus aujourd'hui besoin de la légitimité d'un éditeur pour me sentir, moi, légitime en tant qu'auteur. J'ai des choses à apprendre, ça je le sais pertinemment que je... Et je le vois, je progresse encore de jour en jour. Je suis ravi de voir ma progression, et je suis très en demande de ça. Mais j'arrête de me poser la question de ma légitimité aujourd'hui, donc j'ai pas besoin d'un éditeur pour ça. Et si un éditeur veut me signer un contrat, eh ben, je suis tout ouvert pour en discuter, mais la négociation va être rude, voilà.
Ça va pas être facile de t'avoir, quoi.
Non, pas du tout.
Ok. J'ai envie de passer au deuxième sujet qui nous intéresse et pour lequel je t'avais proposé de discuter. C'est effectivement la relation à l'écriture que tu as et puis la relation à ta mère moi aussi. Je voulais qu'on commence peut-être de manière un petit peu plus large par parler du lien avec l'histoire de ta région, puisque c'est que tous tes romans se passent dans la même région. Est-ce que ta famille est originaire de là-bas? Est-ce que tu as un attachement particulier à cette région qui fait que tu as envie de travailler sur son histoire?
Alors, oui, mon père a grandi dans la région. Hein, lui, il a grandi dans le Blayais. Par contre, ma mère, non, elle vient des Bouches-du-Rhône, elle vient de Martigues. Elle est venue là vivre ici quand elle a rencontré mon père. Après, l'attachement à ma région, je crois qu'il est venu, tard, en fait, parce que quand j'ai eu 18 ans, je suis parti à Paris pour mes études. Je voulais faire ingénieur du son, travailler dans le studio d'enregistrement, et donc à l'époque il n'y avait pas d'école pour ça dans le Bordelais, donc je suis parti à Paris. J'ai vécu 8 ans à Paris et à la fin je me suis rendu compte que ma région me manquait énormément, et puis que l'histoire de ma région m'intéressait. Alors, petit à petit comme ça m'a toujours un peu intéressé, mais sans vraiment m'y attarder. Et puis je me suis dit, ben, on rentre à la maison. Voilà. Un jour je me suis dit, j'en ai marre de vivre à Paris. C'est en revenant un été. En revenant un été, je me suis dit, pour la première fois, j'ai pas envie de repartir. Mais bon, il faut quand même repartir travailler. Donc là, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je me laisse un an. Et si aux prochaines vacances d'été, l'année prochaine, le sentiment est toujours là, le même sentiment est toujours là, je rentre. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. L'année d'après, je suis revenu et avec la même envie de rester chez moi, de plus aller à Paris. Et je suis rentré faire mes affaires et 3 mois après, ben, j'étais de retour à la case départ. Mais un retour que j'ai très bien vécu, du coup, puisque complètement choisi. C'est vrai que de repasser de Paris au Blayais, c'était très différent, mais pleinement ce que je voulais. J'en avais vraiment marre de vivre en ville.
Et puis j'imagine que c'est quelque chose que tu as dû vachement approfondir aussi avec l'écriture du premier roman. Tu as dû beaucoup découvrir aussi d'éléments sur ta région,
Ouais.
sur son histoire, qui ont pu aussi alimenter finalement cette série, quoi.
Tout à fait, parce qu'en cherchant sur Geoffrey Rudel, ben voilà, j'ai lu plein de documents, je me suis dit, ah mince, il y a ça. Et pourquoi ça, je ne l'ai jamais su avant? Je me suis dit la question, mais pourquoi on ne le sait pas après? C'est sûr que En fait, Geoffrey Rudel, il y a plein de gens qui. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais juste en tant que troubadour, sur ses textes, etc. Pas sur sa vie, pas sur la vie des seigneurs de Blaye, etc. C'est trop spécifique peut-être à la région. Et donc moi, je me suis dit, mais moi, ça m'intéresse vachement de tout savoir. Et puis c'est ça, c'est qu'en creusant, en s'imprégnant de l'histoire locale, et ben voilà, on tombe dedans, on s'y intéresse. Et puis finalement, on se rend compte que on a toujours envie d'en savoir plus, que l'attachement est là, et que voilà, c'était trop tard, j'étais pris dans le piège.
Oui, c'est ça. Et alors du coup, moi je te contacte il y a quelques semaines en te disant que j'ai envie de parler de ton parcours et je ne peux pas m'empêcher de te parler de ta maman. Alors j'allais dire, est-ce que c'est une chance ou une malédiction? C'est peut-être un peu fort. Est-ce que tu trouves ça normal que les gens fassent le lien et aient envie d'en savoir plus? Ou est-ce que quelque part aussi ça peut être une certaine pression? Tu vois, tu disais au tout début, j'avais peur de pas être capable. Est-ce que tu avais peur de la comparaison par exemple? Ou est-ce que c'est pas du tout par rapport à ça?
Alors absolument pas. Je me suis jamais comparé à ma mère. Tout d'abord parce que c'est une autrice extraordinaire et avec un talent extraordinaire. Et je me suis jamais dit l'objectif c'est de faire mieux, ne serait-ce que l'atteindre. Je me suis toujours pensé dès le départ que si j'arrive à faire ne serait-ce qu'un quart de ce qu'elle a fait, c'est un accomplissement formidable. Pour moi, il n'y a pas de comparaison possible en fait. Même si parfois, surtout avec mon premier roman, vu que mon histoire se rattachait à la sienne, forcément on allait en parler, forcément il y allait avoir des comparaisons. Mais c'est pas grave en fait. Elle non plus ne le vit pas du tout comme un concours ou quelque chose comme ça. Voilà, on vit très bien tous les deux ensemble. Elle m'aide énormément. Elle me demande mon avis sur ses romans. Parce que même si j'ai lu tous ses livres, même si je suis très imprégné de sa manière de raconter, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, moi j'ai grandi avec ma maman qui me racontait des histoires tous les soirs. Et ma maman ne me lisait pas des histoires tous les soirs. Elle m'inventait des histoires. C'est-à-dire que le soir, je me couchais, elle me disait, tu veux quoi dans ton histoire? Tu veux quel personnage? Ça se passe comment? Ça se passe. Je lui disais tout ce que je voulais, et 20 secondes après, l'histoire commençait. Voilà, c'était mieux que les boîtes à histoires d'aujourd'hui qu'on offre aux gamins, presque. J'avais ça tout le temps à la maison. Et donc, sa manière d'inventer l'histoire, sa manière de la raconter, je pense que ça m'a imprégné depuis toujours. Alors après, moi, là, aujourd'hui, j'essaye pas du tout de copier ce qu'elle fait, même si je suis dans le roman historique, mais je ne me calque pas sur sa manière de raconter, j'essaie d'avoir ma propre identité à moi. je pense y parvenir. Mais comment dire, c'est pas du tout une pression en fait, parce que voilà, elle m'a toujours soutenu. Il y a pas vraiment pas de cette ambiguïté entre nous. Il y a pas de concours quoi. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir cette chance-là d'être son fils et de voir tout ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais enfant, tout ce qu'elle fait pour moi encore aujourd'hui, comment elle m'accompagne dans cette aventure littéraire à laquelle je ne m'étais pas préparé. Et voilà, c'est une chance extraordinaire.
Que les gens t'en parlent finalement, toi tu t'es mis dans son sillage de toute manière en écrivant ton premier roman, donc c'est naturel finalement.
Oui, voilà, je suis ses pas, je les rattraperai peut-être jamais, mais c'est peu importe en fait, l'important n'est pas là. Elle m'a toujours appris de croire en mes rêves, en mes espérances et d'aller au bout de ce que je voulais faire. Mais moi, écrire, je ne le fais pas pour une gloire quelconque. Je ne le fais pas pour avoir la prétention de me dire « je suis le meilleur dans mon domaine ». Peu importe, en fait. Et puis, comment dire qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre? C'est très compliqué, c'est trop subjectif, ça n'a pas d'intérêt. Quelqu'un peut aimer un roman et en détester un autre et rencontrer une personne pour qui ce sera complètement l'inverse. En tant qu'auteur, je veux avant tout me faire plaisir à mes lecteurs, progresser le plus possible pour que mes romans soient mieux, sur le plan technique, sur le plan etc., parce que je savais déjà dès le départ qu'il y avait des choses à apprendre. La différence, c'est que quand moi j'ai sorti le Serment de Geoffrey, c'était mon premier roman, mes premiers écrits. Quand ma mère a publié L'île d'Aliénor, mais elle avait déjà écrit des tonnes de choses, qui n'ont pas été publiées, certes, mais elle avait déjà écrit énormément. Puis qu'elle a 8 ans, elle écrit. Moi, j'ai commencé à 27-28. Enfin, c'est pas comparable. J'avais des années de retard dans la maîtrise de savoir comment moi j'allais aborder une histoire, comment moi j'allais la raconter. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas simple quand on débute. C'est comment on commence un chapitre, comment on raconte ça, comment je vais imbriquer les éléments les uns dans les autres. Ça, c'est vraiment hyper complexe, en fait. Et moi, j'ai pas eu ça dès le départ. Donc, j'ai essayé comme ça. Bon, je ne suis pas trop mal sorti, visiblement, parce qu'elle m'a dit, c'est bien, elle m'a dit, continue, il y aura du travail, mais continue. Mais ouais, ça a toujours été une chance de l'avoir auprès de moi. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Elle lit tout ce que j'écris. À la fin, je tiens compte ou non de ses remarques, ça c'est ma liberté totale, parce que parfois je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle me dit. Bref, j'ai le droit. Mais je m'autorise aussi ça. Je me dis, je fais la distinction parce que je sais, parfois, quand elle relit ce que j'écris, quand elle me fait des petites remarques, je fais là, maman, attention. Là, c'est toi qui veux raconter l'histoire, c'est plus moi qui la raconte. Donc, ta suggestion, tu la gardes pour toi, si tu veux des petites choses comme ça. Voilà, j'ai pas peur de lui dire que je suis pas d'accord, ou que souvent, quand même, elle m'aide encore aujourd'hui. Ouais.
Puis, j'imagine que son expérience aussi de l'édition traditionnelle, c'est une chance pour toi aussi. Vous avez dû beaucoup échanger, à la fois sur ton expérience que tu as pu avoir de ton côté, mais aussi elle sur sa carrière entière. Quoi.
Exactement, son parcours en maison d'édition. C'est vraiment un modèle pour moi, parce que je vois vraiment ce que ça lui a apporté de travailler avec des professionnels. Comment son écriture a changé, a évolué, comment ils ont su s'adapter aux exigences peut-être des lecteurs d'aujourd'hui. On n'écrit plus tout à fait un roman aujourd'hui comme... Elle n'écrit plus, elle du moins, un roman aujourd'hui comme elle l'écrivait il y a 20 ans. Il y a des choses qui ont changé dans sa manière d'aborder l'écriture, mais ça, c'est parce que l'éditeur l'a guidée là-dessus. Voilà, moi, pour progresser, je fais aussi appel à des gens pour travailler avec moi. J'ai travaillé sur mon dernier roman avec sa correctrice à elle. Donc on va me dire, oui, pour se débarquer de ta mère, travailler encore avec sa correctrice, c'est peut-être pas un bon choix. Mais c'est un très bon choix, parce que c'est une personne absolument compétente, en qui j'ai du coup entièrement confiance, parce que je sais ce qu'elle fait sur les romans de ma mère, je sais son travail, je sais comment elle est en tant que personne, comment elle va réagir, comment elle va m'aider, et voilà, pour moi, c'est la bonne personne avec qui travailler. Donc je suis pleinement satisfait de travailler avec cette personne-là. Voilà, les vrai que ma mère est édition, je vois ce que ça lui a apporté. Donc c'est pour ça qu'au départ, je voulais être édité. Pour avoir la même chose, sauf que je ne l'ai pas eu. Donc j'ai changé de mon fusil d'épaule.
Mais tout à l'heure, tu disais par exemple que, effectivement, quand on est auto-édité, c'est un petit peu plus compliqué de faire sa promo, etc. Les libraires ne sont pas forcément très ouverts à l'idée. Qu'est-ce qu'elle, elle pensait du choix de l'auto-édition avec l'évolution qu'elle a aujourd'hui en maison d'édition et quand on sait aussi l'image que peut avoir l'auto-édition auprès des éditeurs, etc. Est-ce qu'elle t'a poussé dans cette voie-là?
Non, ni dans l'un ni dans l'autre. Elle m'a laissé faire mon choix aussi parce que, en fait, elle a découvert avec moi cet autre versant de l'édition quand ça ne se passe pas tout à fait bien. Puisqu'elle s'est toujours bien passée avec XO Édition. Il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de non-dits sur les chiffres de vente, etc. Elle a toujours tout su en temps et en heure, il n'y a vraiment aucun problème. Donc quand elle a... Alors elle savait que pour d'autres auteurs qu'elle connaissait, que c'était pas toujours facile. Et c'est vrai que peut-être le fait que moi j'y sois confronté directement, ça l'a touché un peu plus. Et elle m'a dit non, tu fais comme tu le sens en fait. Voilà. Moi, elle m'a pas poussé à postuler dans d'autres maisons d'édition. J'ai été démarché depuis par d'autres maisons d'édition. Ça n'a pas marché, pour plein de raisons. mais voilà, moi j'ai pas possible. C'est pas moi qui ai fait les démarches. On est venu me contacter. Moi, je ne veux pas retomber dans ces travers-là. Donc elle me dit, ben continue comme ça si ça marche pour toi. Et puis elle voit qu'il y a plein d'auteurs qui marchent très bien. Il y a des auteurs édités qui vivent très bien l'écriture aujourd'hui. Des auteurs édités qui vivent mieux que des auteurs édités. Voilà, j'en ai croisé sur des salons qui sont édités depuis longtemps et qui ne gagnent pas plus d'argent que moi tout seul. Donc voilà, pourquoi ne pas se débrouiller tout seul. Alors je sais, hein, c'est pas facile. Comme on le disait, c'est que ben il faut parfois tout faire soi-même, engager d'autres personnes pour travailler avec nous quand il y a besoin pour les corrections, travailler sur les couvertures, la quatrième de couverture, etc. Ben, y a plein d'aspects où c'est bien d'être entouré, mais parfois, est-ce que ça vaut le coup d'être édité? Je sais pas. Moi, je dirais que non aujourd'hui. Voilà. On m'aurait posé la question il y a 20 ans, j'aurais dit oui, il faut être édité. Aujourd'hui, je dirais, quand on me demande ce qu'il doit faire, je dis fais-le tout seul. Voilà, clairement, fais de l'auto-édition. Au moins, dans l'auto-édition, c'est que si tu es déçu, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, parce que c'est que peut-être tu n'auras pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche, plutôt que dans l'audition classique où quand ça marche pas et que tu sais que toi tu as fait ton maximum, mais que à partir du moment où pour toi l'écriture est terminée et que maintenant le livre, ben c'est tu as toi de t'en occuper, que c'est à l'éditeur, distributeur, libraire, etc., ben t'es plus maître du jeu. Et malheureusement, si ça se passe pas comme tu l'entends, ça peut être plein de facteurs différents, peu importe, mais au moins là je sais que si je me plante, ben, c'est de ma faute, voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà.
Oui, et puis de toute façon, tout ce que tu apprends en auto-édition peut te servir si un jour, effectivement, il y a une opportunité avec l'éditeur. Je pense que c'est aussi toute l'expérience que tu acquiers et qui te donne un regard aussi beaucoup plus posé, beaucoup plus distant, beaucoup plus professionnel sur tout ce que va te proposer l'éditeur après coup aussi.
Oui, parce que la première fois qu'on est confronté à un contrat d'édition, mais c'est l'enfer, en fait. On ne comprend pas tout ce qu'il y a écrit. Il y a plein de clauses dans tous les sens. On ne sait pas vraiment ce qu'on laisse. On ne sait pas vraiment ce qu'on va gagner. Enfin, si ce qu'on va gagner, bon, moi, pour le coup, sur mon contrat, j'avais un avaloir. Donc, je savais ce que j'allais percevoir au début. Mais comment se passe le recouvrement de l'avaloir, sur le nombre des ventes, qu'est-ce qui est pris en compte, pas pris en compte. Tout ça, c'est très, très compliqué à savoir. Et puis, les chiffres de vente en maison d'édition, pour les avoir, mais quelle catastrophe, quelle galère. C'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer, quoi. Sur Amazon, tu y vas et puis. Presque au jour le jour, tu sais ce que tu as vendu. Je veux dire, c'est pas compliqué. Il y a tout un mystère là derrière avec les maisons d'édition. Mais parfois, je me suis même dit, mais est-ce que ce qu'ils me disent, c'est vrai? On en vient à en douter parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement obscur qu'on se dit, mais est-ce que les choses qui nous avancent sont réelles ou pas? C'est dingue. Donc, moi je conseille d'essayer l'auto-édition.
Finalement, c'est beaucoup plus de travail, mais aujourd'hui, c'est ton travail à plein temps. Mais quelque part, c'est aussi peut-être un peu plus de confiance et de sérénité vis-à-vis de ce que tu sais de ton activité. C'est-à-dire que voilà, les chiffres, c'est les tiens. Les salons, c'est toi qui les organises, c'est toi qui y vas, c'est toi qui fais les demandes, etc. Donc finalement, même si c'est beaucoup plus de travail personnel de tous les jours, bah, tu gagnes en sérénité de ce côté-là, quoi. T'as plus ce doute.
Exactement. Voilà, parce que c'était vraiment trop compliqué à gérer émotionnellement, de pas toujours avoir les réponses, d'avoir certaines personnes qui ne répondent pas au téléphone quand tu veux les joindre, quand tu as besoin de les joindre pour quoi que ce soit par rapport à ton métier d'auteur. Enfin, c'est compliqué quand tu n'as pas de réponse, alors que les gens sont là pour ça, puisque ils sont signés à un contrat avec toi. Donc, voilà, moi je me suis dit, bah, maintenant c'est tout seul, comme ça je m'en sors bien. Bien mieux au moins. Je sais que s'il y a quelque chose qui n'est pas fait, ben, c'est parce que moi je ne l'ai pas fait, tout simplement. Voilà, Alors, c'est pas toujours facile à gérer parce qu'avec une vie de famille à côté, ben, et une vie de famille à laquelle je me consacre pleinement aussi, je manque de temps souvent. Je me dis, je travaille pas à mon rythme non plus, j'écris pas comme je veux. Voilà, j'aimerais commencer à travailler vers 13-14 heures jusqu'à 19-20 heures, sauf que c'est pas tout à fait possible aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je m'adapte comme il faut, puis si j'écris que 3 pages aujourd'hui, j'en écris que 3. J'essaie de me culpabiliser avec tout ça, de toute façon. Je gère mon temps de travail comme, comme je veux. L'écriture, ça vient comme ça vient. Si aujourd'hui, j'ai fait que 2 pages, c'est bien. Si j'en ai fait 10, c'est bien aussi. Voilà, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. C'est que dans tous les cas, c'est bien. J'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui. Et voilà, je me dis, j'avance comme ça. Voilà, ça me posait plus de questions.
Ouais. J'allais dire, pour clôturer un petit peu notre discussion, j'allais te demander si tu avais un conseil finalement à donner à des auteurs qui réfléchissent à se lancer en auto-édition, mais tu as déjà un petit peu répondu à ça. Comment tu vois les choses, toi, voilà, pour quelqu'un qui aujourd'hui a un texte qui est prêt et qui se pose la question de l'envoyer à des maisons d'édition ou de l'auto-éditer, qu'est-ce que tu lui dirais? Sur quoi est-ce qu'il peut baser son choix?
Moi, je lui conseillerais de s'auto-éditer. Et de s'auto-éditer s'il le fait en s'entourant de personnes pour l'aider dans son travail. Comme je disais, moi, le travail de correction éditoriale, eh ben, c'est indispensable sur un roman. On ne peut pas travailler tout seul sur un roman et aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Il y a toujours des choses qui sont améliorées, des choses qui ne vont pas, des choses qu'on ne voit pas en tant qu'auteur, parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus de recul sur notre propre texte. Mais il y a des choses que je ne voyais pas encore sur le dernier. Je me suis dit, bon, il y a ça, ça, ça et ça que ma correctrice m'a montré, et parce que j'avais plus de recul dessus. Et je pense qu'il faut se dire, je peux le faire en auto-édition, mais il faut quand même le faire avec d'autres personnes, se faire avec d'autres personnes. Donc soit des professionnels ou potentiellement d'autres auteurs qui vont t'aider, ou des gens qui sont amateurs mais qui s'y connaissent un petit peu et qui vont pouvoir t'aiguiller sur plusieurs points. Je pense que c'est vraiment important de s'entourer de professionnels quand même. Et après, ben, le choix de la maison d'édition, ça dépend alors à qui l'envoyer. Je pense que avant de s'engager dans une maison d'édition, je conseillerais à l'auteur de rencontrer d'autres personnes éditées dans cette maison d'édition. Donc si elles le peuvent via des salons du livre, ou alors via les réseaux sociaux, essayer de rentrer en contact avec eux quand c'est possible. Alors évidemment, suivant qui vous allez cibler comme personne, ils ne vont pas forcément vous répondre, mais il y a des auteurs peut-être moins connus qui prendront peut-être un peu plus de temps pour vous pour le faire. Et sur les salons, c'est bien, parce que les auteurs sont abordables, il ne faut pas hésiter, ils sont gentils, pour la plupart quand même, ils sont accueillants, il faut aller les voir. Et voilà, eux aussi sont en demande parfois d'échanges sur les expériences de chacun, sur les autres maisons d'édition. Il y en a beaucoup qui sont édités dans des maisons d'édition qui s'interrogent sur d'autres maisons d'édition parce que ça ne va pas exactement comme ils veulent dans leur propre maison d'édition. Moi, en tant qu'indépendant, il y en a beaucoup qui me demandent comment ça se passe en auto-édition parce qu'ils disent « Ah, on y pense ». Voilà, j'ai des auteurs édités qui me disent « Peut-être que je vais faire ça, moi aussi ». Il faut bien s'enseigner parce que si c'est une maison dans laquelle tout va bien et que les gens sont super à l'écoute, vous pouvez avoir confiance en eux, les gens travaillent bien, ils sont tout le temps réglo, ben, s'ils veulent signer un contrat avec vous, que le contrat vous convient, ben, foncez, en fait. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le. Ne vous laissez pas avoir par le prestige de la maison d'édition, parce que une grande maison d'édition peut, malheureusement, sortir des livres en petit volume. Hein, ça, c'est pas parce qu'on va signer chez des grands noms que le bouquin va être présent sur tous les étals dans les librairies. Ça, c'est complètement faux, parce qu'il y a aussi le distributeur qui est maître des choses. Et malheureusement, parfois, on peut avoir une grande maison d'édition et avoir 800 exemplaires placés en librairie, sauf que si vous en avez 800 placés en librairie, vous n'en vendrez pas 20 000. Voilà, donc si c'est pour en vendre que 800 au maximum, voir s'il y a un retirage, et encore, ça c'est de plus en plus rare. C'est vraiment plusieurs choses à étudier. Moi je conseille vraiment voilà, d'en parler avec les auteurs, si c'est possible. Voilà, déplacez-vous sur le salon du livre, allez les rencontrer, dites-leur que vous avez postulé dans la maison d'édition pour laquelle ils sont publiés. Ce qu'eux en pensent ou pas, peut-être qu'ils ne vous répondront pas, parce que parfois il y a des clauses dans les contrats qui te disent il ne faut pas parler du contrat, etc., etc., etc. Bon bref, après en off, on fait ce qu'on veut, hein, moi j'ai envie de dire. Voilà. Après, c'était trop tard. Une fois que vous avez cédé vos droits pour les récupérer, c'est tellement con. Faire le bon choix dès le départ, mais c'est pas évident du tout.
Non, c'est sûr. Bon, après, on a la chance d'avoir aussi un milieu auto-édité qui se développe énormément ces dernières années, qui crée beaucoup de liens, qui se professionnalise énormément. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont aptes aujourd'hui à parler de leur expérience, parce qu'il y a des gens qui auto-éditent depuis 15-20 ans, mais c'est vraiment ces dernières années que ça a évolué. Et du coup, ils ont un regard aussi très intéressant sur tout ça. Et on a de la chance d'avoir des gens qui sont prêts à discuter. Donc, faut pas hésiter, effectivement.
Ah ouais, moi, c'est ce que je fais. Hein. Je n'hésite pas à aller poser des questions et à en parler de comment ça se passe dans les maisons d'édition. Comme j'ai la chance d'être invité sur des salons, et parfois des salons importants, où il n'y a parfois pas ou très peu d'auteurs indépendants, ben les gens me disent « Mais alors, pourquoi t'es là ? Et comment t'es là ? Et comment ça se passe pour toi ?» On me pose beaucoup ces questions, et moi j'explique. Et le regard sur l'auto-édition change, Et je pense que, moi j'ai envie de dire, je pense que le monde de l'édition traditionnelle est sur le déclin, sur un très fort déclin, et que malheureusement ce monde-là ne l'a pas encore compris. Voilà. Moi je suis très content, voilà, pour tous ceux qui réussissent hors du circuit traditionnel d'édition, je suis absolument ravi. Ils ont tout mon soutien, tout mon courage, et ceux qui galèrent un petit peu, il ne faut pas baisser les bras, il faut persévérer. Faites du mieux que vous pouvez et soyez indulgent avec vous-même. Voilà, c'est ça mon conseil. Soyez indulgent avec vous-même. Faites de votre mieux. Et puis, ça marche pas. Mais n'ayez pas de regrets dans ce que vous faites. En fait. Voilà, c'est ça surtout.
Eh ben, merci beaucoup. Je pense que ça clôture parfaitement notre discussion. Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça avec moi, d'avoir partagé ton parcours et puis ta pensée aussi sur tous ces sujets-là.
Super.
Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. C'est une chance de vous avoir chaque semaine un peu plus nombreux à écouter nos échanges. L'expérience d'Anaël, elle est précieuse parce qu'elle confirme qu'être publié en maison d'édition, ça correspond pas forcément à tout le monde. Mais ce que je retiens, c'est qu'il est possible d'avoir des résultats similaires en auto-édition pour peu qu'on se professionnalise. Alors évidemment, il y en a qui partent de plus ou moins haut, mais tant qu'on donne de son temps et de son énergie en salon ou autre, eh ben c'est possible. Ce que je voulais savoir aussi en interrogeant Anaël, et je suis sûre que vous aussi, c'est si c'est plus facile de réussir quand on a un parent proche qui a déjà un pied dans le milieu. Et la réponse, évidemment, est beaucoup plus nuancée que ce qu'on voudrait bien admettre. Oui, ça permet de discuter, ça permet d'avoir des conseils, des avis même parfois, ça permet d'apprendre plus vite, tout simplement parce qu'on est entouré de gens qui sont plus professionnels et à qui on peut se permettre de poser des questions. Mais ça n'enlève rien au travail, à l'effort et puis à la recherche de sa propre singularité. Retenez bien que on devrait tous chercher des relations de proximité avec des gens du milieu. C'est par là que ça commence le réseau. Et même si vous partez de très loin, que vous connaissez personne, ne perdez pas de temps et partez à la rencontre d'autres auteurs et de professionnels même. C'est eux qui vont vous tirer vers le haut. J'espère que ces quelques dizaines de minutes en notre compagnie ont pu vous aider dans votre réflexion ou dans votre stratégie. Si vous aussi vous voulez publier un livre en auto-édition mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation qui s'appelle justement « Publier son livre en auto-édition » et qui vous accompagnera pas à pas sur toutes les étapes vers la publication de votre livre. Toutes les informations sont à retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, édition-artis, ou sur mon site internet autoedition.artis.com. À bientôt !